Merci Sophie Delpont et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Le Secret des Sources, notre plongée hebdomadaire dans les coulisses de l'information.
This is Bob Woodward of the Washington Post.
Bob est un bon journaliste, un type bien et un rédacteur compétent.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources et bien sûr on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Trouvez une autre source. Ben merde.
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources. Benoît Bouscarel.
Les journalistes ont-ils une mission plus importante encore, plus large que celle de simplement informer ? Peut-on considérer qu'en plus du devoir d'informer, ils ont la responsabilité de créer les conditions du changement ? Doivent-ils faire attention à ne pas désespérer les citoyens en décrivant le monde tel qu'il est, inégalitaire, belliqueux et pollué ? Face à la crise économique, la crise sociale, face à la crise environnementale, les journalistes et leurs rédactions se doivent-ils d'éclairer les initiatives citoyennes, de mettre en valeur les solutions locales, d'avoir la positive attitude ? Doivent-ils en fait s'efforcer de parler plus de toutes ces bonnes volontés qui rendent le monde moins inégalitaire, moins violent et plus respirable ? Beaucoup pensent que oui, et ceux-là sont les promoteurs de ce qu'on appelle le journalisme de solution, un phénomène qui a le vent en poupe en ce moment. Mais est-ce qu'un journaliste s'est fait pour ça, pour trouver des solutions, pour agir ? Est-ce qu'il faut se poser la question de l'impact psychologique d'un sujet avant de le traiter ? Faut-il faire le tri entre ceux qui donneraient envie d'agir et les autres ? Quelles sont les limites de ce journalisme de solution? Vous verrez qu'en se posant ces questions cette semaine dans Le Secret des Sources, c'est finalement du journalisme tout court qu'on va parler avec nos invités. François Siegel, fondateur et patron du magazine trimestriel Oui Demain. Éric Dupin, journaliste et essayiste, auteur de Les Défricheurs aux éditions de La Découverte. Et Christian de Boisredon, fondateur de Spark News, qui a lancé notamment l'Impact Journalism Day.
Dans un peu moins de 200 jours s'ouvrira à Paris la grande conférence sur le climat. Au-delà des discours officiels et des batailles d'experts, des entreprises investissent déjà dans la transition énergétique. Certaines sont très imaginatives. C'est le cas, vous allez le voir, de cette entreprise française du Nord. Autrefois promise à la faillite, elle a su faire rimer écologie et économie.
En parlant d'une belle idée maintenant, vous avez besoin de légumes bio, eux ont besoin de travail. Ensemble, cultivons la solidarité. C'est le slogan des potagers de Marcoussi. 11 hectares en tout, cultivés par des personnes en grande difficulté. 60% des hommes ou des femmes qui y sont passés ont retrouvé un emploi durable.
Le secret des sources.
Alors on l'entend, hein, le journalisme de solution, c'est finalement peut-être presque une certaine façon de traiter un certain type de sujet. Et presque tous les médias s'y mettent, peu à peu. Mais vous, François Siegel, bonjour.
Bonjour.
Vous en avez fait une spécialité en fondant Oui Demain, la revue pour changer d'époque, dont vous êtes fondateur et dirigeant. Alors, respirez, inventez, partagez dans vos rubriques. Chaque trimestre, on retrouve les sujets qui mettent en valeur des solutions. Vous vous référez souvent à la troisième révolution industrielle qu'il faut, dites-vous, prendre à bras le corps pour changer le monde.
Quand on a lancé Oui Demain il y a trois ans, maintenant, presque trois ans, on a réfléchi en disant, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un changement d'époque, on l'annonce violent et on s'aperçoit d'ailleurs depuis qu'on n'est pas déçu, quoi. Je veux dire, le changement d'époque, il est de plus en plus fort, de plus en plus rapide, même si on s'en rend pas toujours compte dans les discours un petit peu officiels ou même dans la couverture de la presse traditionnelle. Et en gros, je crois qu'on est revenu, nous, à une fonction de la presse relativement essentielle et fondamentale, c'est de raconter son époque et de raconter son temps. Alors, de façon, je dirais, peut-être un tout petit peu raccourcie, mais dans les présentations de Oui Demain que je faisais, je dirais, quand j'essayais d'expliquer la formule, je disais, il y a un certain nombre de journaux qui ont marqué leur époque, je dirais, alors je prends quatre exemples, je prends Actuel dans les années 70, hein, Actuel qui dit, voilà, un nouveau monde est là, c'est la contre-culture, c'est l'explosion de tous les mouvements sociaux, c'est l'underground, monde. Voilà, c'est une autre façon de penser. Il y a évidemment, je parle de, parce que ça me tient à cœur, VSD dans les années 80, qui dit, la civilisation des loisirs existe. Hein, on va vous expliquer maintenant pourquoi, globalement, on rentre dans un autre monde. Wired dans les années 90, hein, qui dit, on va vous expliquer pourquoi Internet va changer votre vie, ce qui n'est pas totalement faux, quoi, hein, quelque part, je veux dire, dans cette prophétie.
Et vous arrivez et comme puis, la nouvelle vague,
et puis,
là, de
journalisme. On dit, voilà, le monde change, je veux dire, on ne sait même pas, c'est tellement violent le changement entre la prise en compte de l'environnement, entre évidemment toutes les nouvelles technologies de l'information, entre l'intelligence artificielle, etc., entre peut-être demain, je dirais, la fin du travail, quoi. En gros, le 21e siècle, le 20e siècle qui disparaît pour faire place à ce que sera le 21e. Bah, très immodestement, on dit voilà, Oui Demain est le magazine qui contient ses valeurs. Alors, est-ce que c'est de la presse de solution ? Est-ce que
voilà,
c'est de
ce terme-là.
Je pense que c'est de la presse, quoi.
Oui, vous disiez que ça heurte votre conviction, peut-être ?
Non,
même.
Ça heurte pas ma conviction, parce qu'à partir du moment où on veut raconter ce qui va arriver, ce nouveau monde, donc on sélectionne. Je veux dire, moi, je suis un fou d'information, j'adore tout ce qui se passe, voilà, mais globalement, il faut bien qu'on définisse un petit peu un territoire pour notre magazine. Ouais. Donc, à partir du moment où ce territoire va définir une certaine forme d'information. Et la façon dont les lecteurs la reçoivent, elle est totalement étonnante, c'est-à-dire l'histoire qu'on leur raconte, ils ont envie d'y croire. Voilà. Elle n'est faite que de témoignages, de villes qui sont passées en transition, de territoires qui changent, etc. Mais globalement, ce nouveau monde, ils ont envie d'y croire. C'est pour ça qu'on nous dit, vous êtes une presse optimiste, etc. Non, voilà, on raconte ce qu'on voit dans ce nouveau monde qui change.
Bonjour Christian de Boisredon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous n'êtes pas journaliste, plutôt entrepreneur. Vous êtes le fondateur de Spark News, qui est quoi ? Un réseau qui fait de la curation sur les sujets d'avenir, on peut dire ça comme ça ?
Pour le dire simplement, on aide les médias traditionnels à parler plus souvent des solutions. Voilà. Et on travaille avec les médias d'une quarantaine de pays. Et contrairement à Oui Demain, qui est effectivement un vrai média dédié, nous, on cherche à ce que les médias traditionnels puissent augmenter au fur et à mesure un peu plus ce traitement des solutions pour dire il faut parler des problèmes, bien sûr, mais si on parle des problèmes et des solutions, ça permet aux gens de se dire... Ok, on est alerté, mais en plus, on a des éléments pour contribuer à ce monde qui change.
Alors, j'imagine qu'il y a des réserves quand vous allez voir les journalistes et les rédacteurs en chef. On en parlera tout à l'heure. Vous avez donc des initiatives régulières avec Spark News, notamment cet Impact Journalisme Day dans la prochaine édition, reliée en juin prochain. Est-ce qu'on
peut dire exactement. En fait, on a fédéré 47 journaux qui sont les plus gros titres d'une quarantaine de pays. Et on fait du collaboratif, c'est-à-dire que chacun fournit deux articles, on met tout en commun. Et le même jour, ils publient 8 pages dédiées aux solutions qui changent le monde. Et en fait, ce qui est au-delà du fait qu'on touche 120 millions de lecteurs, ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, ça crée une sorte de prise de conscience dans les rédactions qui disent, mais en fait, c'est incroyable, il y a plein de sujets qu'on ne connaissait pas et qui sont passionnants, qui sont des vraies histoires parce que c'est le monde d'aujourd'hui. Alors, c'est pas du positif, mais c'est du journalisme. Et finalement, ces sujets-là, ils étaient en dessous de notre radar. Et puis,
c'est-à-dire qu'ils ne les cherchaient pas ou qu'ils ne les trouvaient pas ?
En fait, je pense que c'est les deux. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas forcément les réseaux. Il y a Gandhi qui dit un arbre qui tombe fait beaucoup de bruit, une forêt qui germe, on l'entend pas. Et donc tous ces sujets, en fait, qui sont des sujets qui germent, effectivement, font pas forcément beaucoup de bruit, alors que c'est des projets magnifiques. Voilà. Et ce qui est amusant, en fait, c'est que dans les rédactions, comme d'ailleurs ils ont beaucoup de retours très positifs de leurs lecteurs, certains même explosent leurs ventes ce jour-là. Du coup, ils se disent, mais en fait, est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté d'une attente du public qui, certes, a besoin qu'on les alerte sur les problèmes, mais qui a aussi besoin qu'on leur montre le monde aujourd'hui et tout ce qui est en train de bouger et de changer.
Ça, c'est intéressant. On verra ce que nous dit le journalisme de solution sur l'état de la presse actuellement. Également avec nous dans le secret des sources cette semaine, Éric Dupin. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste et essayiste. Vos défricheurs du titre du livre que vous avez publié l'an dernier aux éditions de La Découverte, ce sont aussi des militants, des citoyens impliqués, Éric Dupin, que vous avez voulu mettre en valeur. Alors, c'est aussi du journalisme de solution, même si vous n'aimez pas le terme, vous non plus, je crois.
En tout cas, je ne le connaissais pas quand je me suis lancé dans cette enquête. Donc, j'étais comme Monsieur Journin, je faisais du journalisme de solution sans le savoir. C'est vrai que là, j'ai rencontré des gens positifs. Je le cherchais, puisque j'avais fait un livre précédent, Un voyage en France au petit bonheur la chance, où là, j'avais rencontré beaucoup de souffrances sociales, beaucoup de difficultés. Donc, ça donnait à ce livre une tonalité qui n'était pas forcément toujours très gaie. Et en même temps, j'avais découvert que beaucoup de gens vivaient d'ores et déjà selon une échelle des valeurs différente et travaillaient de façon également différente et avaient rompu avec, pour le dire vite, le consumérisme et le productivisme et des bourrandismes. Et bon, à France Culture, on peut se le permettre de temps à autre. Et donc j'ai eu envie de prolonger ce travail. Mais est-ce que je crois au journalisme de solution ? J'ai tendance à répondre par la négative, même si je suis extrêmement admiratif des initiatives qui viennent d'être évoquées. Et je pense qu'elles jouent un rôle tout à fait, je dirais, d'utilité sociale réelle. C'est-à-dire que pour moi, le problème, c'est le problème de mon métier, c'est le problème du journalisme, de la presse. Je préférerais qu'on commence par essayer de faire un journalisme de problèmes sérieux. C'est-à-dire de poser véritablement les problèmes, d'aller à la rencontre du réel, au lieu d'enrober ces préjugés de sorte de d'illustration caricaturale. Et aujourd'hui, en effet, on a une presse qui, pour des raisons aussi, on en parlait un petit peu avant le début de l'émission, économique, de difficultés, de modèles économiques
qui
difficiles.
Qui ne remplit pas ses missions.
Qui ne remplit pas ses missions, qui ne fait pas de reportage, qui ne va pas voir le réel, qui ne va pas assez sur le terrain.
On va en parler, et notamment avec François Siegel qui voulait intervenir. Mais Éric Dupin, est-ce que vous diriez que les défricheurs, c'est la suite logique, naturelle de votre voyage en France, du coup? Est-ce que le journalisme de solution peut être considéré comme une suite logique et naturelle d'un journalisme qui serait, qui poserait les problèmes?
Oui, mais c'est qu'une étape, c'est-à-dire que ces défricheurs que j'ai rencontrés, à la fois ils sont enthousiasmants, les lecteurs du livre auront sans doute envie pour partie de les imiter, donc il y a un rôle positif, et en même temps, beaucoup de difficultés que je ne tais pas, beaucoup de sacrifices qui sont faits, non seulement sur un point de vue financier, mais de sacrifices en termes de temps, etc. Donc ces initiatives, celles dont on a parlé, enfin évoqué, c'est des initiatives qui restent quand même très minoritaires, qui se répandent, qui, à mon avis, sont des initiatives d'avenir, mais qui restent minoritaires. Donc il faut quand même que les médias s'intéressent à l'ensemble de la société et voient aussi cette réalité parfois plus sombre, à condition de ne pas être catastrophiste. Parce que ce que m'ont dit des défricheurs, ça c'est assez amusant, c'est que parfois ils se coupent des médias, ils refusent d'écouter la radio le matin, de regarder la télévision, parce que ça les désespère. Vous écoutez la radio le matin, que des catastrophes, le terrorisme, le chômage, etc. Vous avez envie de vous recoucher.
Mais ça on l'entend partout, hein, tout le temps.
L'ordre est tombé. Des policiers hongrois étirent des fils de fer, bouchant les derniers 40 mètres ouverts. Ces migrants ne le savent pas encore, mais ils sont les derniers à passer par ici.
Un migrant a trouvé la mort hier soir sur le site du tunnel sous la Manche. Il a été électrocuté alors qu'il tentait de monter sur une navette de ferroutage.
Il y a un jeune homme dans l'actualité de ce matin également. Il a 21 ans. Il est promis à la décapitation aujourd'hui en Arabie Saoudite pour avoir manifesté contre le pouvoir.
Dans le nord de la Californie, 11 000 pompiers sont mobilisés. Face à ces flammes terrifiantes, ils sont parfois contraints de reculer. À l'heure qu'il est, les flammes continuent leur course folle. Elles menacent désormais les vignobles californiens.
Voilà un mix un peu sur le mode « la France a peur hein », on s'en souvient. Alors, ce ne sont pas les journalistes peut-être qui sont désespérants, c'est l'info, non, Éric Dupin?
Bah, tout de même, il y a une lecture qui est assez particulière. Si on prend la question des banlieues, bon, bah, les banlieues sont toujours évoquées dans les grands médias, à quelques exceptions près, il ne faut jamais totalement généraliser, lorsqu'il y a un drame, lorsqu'il y a un gros problème, des petites émeutes, des choses comme ça. Bon, bah, pour moi, me promener souvent à pied ou en vélo en Seine-Saint-Denis, qui n'est pas loin où j'habite, bah, je sais que je ne rosie pas la réalité. Trafic de drogue, le chômage de masse, l'oisiveté des jeunes, tout ça existe. Mais en même temps, il y a des tas d'initiatives, il y a de la solidarité, il y a des épiceries solidaires, il y a des tas de choses qui se passent. Donc, il y a quand même une sélection du réel par les médias assez dramatique, comme si le positif, c'était uniquement la publicité, et tout le reste, c'était du négatif.
C'est une question d'équilibre, François Siegel?
Malheureusement, il y a plus de mauvaises nouvelles, et aujourd'hui, je veux dire, voilà, économiquement, géopolitiquement, etc., je veux dire, c'est quand même pas génial ce qui se passe. Donc, voilà, c'est vrai que, alors, est-ce qu'il faut l'occulter? Non. Après, c'est juste, je peux revenir juste un petit peu en arrière sur le journaliste des solutions.
Allez-y.
Parce qu'en fait, en vous écoutant, je me suis dit que, moi, j'aime pas la formule non plus journaliste des solutions, parce que, voilà, ça a fait un petit peu bisounours. Mais en fait, tout compte, ce que nous observons, en fait.
Ah oui, demain.
Aussi bien quand vous regardez le monde, quand vous regardez vos initiatives, ce sont des solutions. Ce sont des solutions pour que ça aille mieux. C'est des gens qui, individuellement, collectivement, au niveau de ville, au niveau de province, s'engagent. Je veux dire, nous, on raconte ça à chaque nouveau. Et en fait, on peut rager que ce qui sera demain, parce que ça va arriver, ça va se faire. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les ferments de la nouvelle société, de nouvelle organisation du monde. Et ce qui est désespérant, c'est un petit peu le conservatisme, je dirais, des dirigeants, qui sont enfermé dans un mode de fonctionnement qui ressemble un petit peu à celui d'hier. Donc globalement, tout compte fait, j'y crois aux journalistes de solutions.
Christian de Bordon.
Oui, nous on y croit aussi, forcément. Je pense qu'on a été un peu obligé d'inventer un terme pour expliquer cette démarche, mais qui en fait, beaucoup de journalistes ont toujours fait du journalisme de solution. Je pense que c'est une question d'équilibre. Il y a une expérience qui a été menée par un chercheur suédois, où il a interrogé des journalistes, un parterre de journalistes, sur par exemple une question simple, c'est est-ce que vous pensez depuis 100 ans que le pourcentage de pauvres a multiplié par 2, est resté stable ou a diminué ? Et 90% des journalistes ont répondu « pourcentage de pauvres a doublé ». Or, c'est faux, en fait. Le pourcentage de pauvres a été divisé par 2 en 100 ans.
C'est un peu le phénomène du sentiment d'insécurité dont parlait Éric Dupin il y a quelques minutes.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que forcément, comme un journaliste, il est là où il y a du bruit, où il y a des choses qui se passent assez dramatiques, et donc il peut avoir tendance à avoir une vision un peu tronquée du monde et d'occulter tout ce qui se passe de formidable. Alors bien sûr, qui ne sont pas des grandes infos, mais c'est la vie, c'est les gens qui se battent, alors parfois avec difficulté, mais d'autres aussi qui arrivent à vivre et à... c'est pas toujours dans la douleur, quoi.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque inverse, Christian de Bordon? Et je pose la question à l'ensemble de nos invités aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque inverse, peut-être de tomber, sans aller jusqu'au journalisme bisounours, mais de tomber peut-être trop dans la bonne nouvelle ou dans le bon côté des choses, à vouloir ne mettre en valeur que des solutions d'avenir?
Non, parce que globalement, le journalisme de solutions, si on peut l'appeler, et malheureusement, il n'est pas encore mainstream, on va dire, dans le traitement de l'information. Ouais. Non, dans les phénomènes aggravants, il y a quand même, la multiplication des médias instantanés. Quand même. Je dirais globalement le fait de devoir, sur BFM, de passer une info toutes les 5 minutes, tous les quarts d'heure. Au bout d'un moment, c'est quand même un phénomène d'érosion qui est absolument terrible. Après, on parle, des réseaux sociaux, etc., de la propagation de l'information.
Les chaînes d'infos en continu font aussi du journalisme de solution, sans doute.
Je suis d'accord. Non, mais bien sûr. Je parle plus. Là, je parle de l'information, générale et des dérives. Je vais vous citer une autre dérive qui, moi, producteur d'images, m'énerve beaucoup. Quand, Sarkozy ou Hollande est dans la tourmente, qu'est-ce qu'on fait? On fait venir les images, des banques d'images et on prend une photo où il a l'air particulièrement triste, particulièrement sinistre, etc. Ça, c'est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que globalement, on est en train d'orienter le lecteur et puis, là aussi, les journaux sont pas non plus, les journaux, les magazines, on a un public et en fonction de son public, effectivement, on va essayer de tirer l'information pour la rendre, la plus commerciale possible. Bien sûr, tout ça, on le sait.
Après, c'est une bonne solution pour la presse aussi de vendre, peut-être, non?
Mais évidemment que ça existe. Évidemment que ça existe.
C'est comme ça aussi que vous les appâtez.
On avait fait une expérience vraiment intéressante avec Libération il y a quelques années, où le patron de Libération, on avait proposé de faire un numéro de Libé dédié aux solutions, avec la première page, le Libé des solutions. Et bon, au début, il ne voulait pas. Heureusement, il y a Didier Pourquerie, qui était directeur de la rédaction, qui était convaincu. Les journalistes n'avaient pas forcément envie de participer parce qu'ils disaient non, mais on n'est pas là pour repeindre la vie en rose. Et donc, on l'avait fait avec les pigistes et seuls. Et contre toute attente, ce numéro était la meilleure vente de l'année, alors que c'était le 26 décembre, on avait donné le jour qui était le pire de l'année pour pas prendre trop de risques. Et du coup, ce qui est formidable, c'est que les journalistes qui étaient plutôt sceptiques, en fait, on dit, mais finalement, c'est vachement intéressant. En plus, on se rend compte que parler des solutions implique qu'on parle des problèmes, donc on n'a pas finalement tant l'impression que ça d'être bisounours. Et ils ont repris l'initiative, ils l'ont fait 7 fois, et à chaque fois, ça a été un gros succès de vente et, je pense, de fierté des journalistes. Donc ça se vend, et nous, les 47 journaux avec lesquels on travaille dans le monde, certains explosent leur vente le jour même. Il y en a même un qui vend 5 fois plus cher ses pages de pub dans le supplément parce que les annonceurs y voient un intérêt. Donc ça peut être aussi une forme de modèle économique pour les médias, même si bien entendu l'idée c'est pas que les médias fassent que des solutions tous les jours.
Quelles sont les limites de ce qu'on appelle donc assez communément maintenant, en tout cas dans cette émission, du journalisme de solution? Et qu'est-ce que ce concept nous dit du journalisme aujourd'hui? Voilà le thème du Secret des Sources cette semaine. Dans un instant, nous retrouvons la chronique d'Isabelle Véramasson. Think Positive par Voodoo Game, choix musical de notre réalisateur Vincent Abouchard. Le secret des sources s'intéresse cette semaine au journalisme de solution. Jusqu'où est-ce une bonne idée et à partir de quand est-ce le signe peut-être d'une crise du journalisme? Pour continuer à explorer notre thème du jour, on retrouve Isabelle Vérin-Masson. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Avant votre chronique, une remarque sur les réticences qu'ont parfois, et on en parlait juste avant la pause musicale, qu'ont parfois les journalistes avec cette forme particulière du journalisme qu'est le journalisme de solution.
Oui, j'avais envie de réagir en me rappelant, moi je connais bien l'ORTF, hein, de l'époque où on disait qu'il fallait que les forces de la joie s'emparent de l'ORTF.
Les forces de la joie.
Les forces de la joie, c'était Arthur Comte en 1972. Donc on le fait venir pour donner du roboratif, c'est-à-dire finalement ne pas évoquer les questions qui fâchent, parce que finalement, souvent, les mauvaises nouvelles, c'est aussi des critiques. Donc, les pays les moins démocratiques et les moments, les gouvernements les moins démocratiques, souvent essaient de s'appuyer sur ce que nous appelons solution et ce que eux considèrent être des bonnes nouvelles, des choses qui donnent le moral et qui finalement sont faire disparaître la critique.
Voilà qui explique donc les réticences des
journalistes. Et du coup, journalistes voient bien que lorsqu'on leur dit donner des bonnes nouvelles, ça veut souvent dire ne soyez pas critiques. Et donc, ils se méfient parce que c'est pas pour ça qu'ils sont devenus journalistes.
Il y a quelques années, le Sénat roumain avait imposé, ça n'a pas tenu, mais avait imposé 50% de bonnes nouvelles dans les médias.
C'est tout dire.
Hein, 50% de bonnes nouvelles au moins. Éric Dupin, ça vous inspire quoi ?
Non, mais ce rappel historique est tout à fait bienvenu. Cela dit, aujourd'hui, on est vraiment dans une toute autre époque. Et me semble-t-il, le biais excessivement négatif des médias, excessivement anxiogène des médias, produit des effets qui n'incitent pas à la contestation ou à la remise en cause du système.
Au contraire,
il y a une sorte d'accablement qui peut tomber sur les épaules et les cerveaux des gens, qui les conduit à penser que le monde est tellement dangereux qu'on n'a qu'à se cacher sous les draps, d'avoir peur de tout et de ne pas bouger.
Mais comment réguler ça ?
Il y a un problème dans cet équilibre médiatique. Et la difficulté, mais ça je pense qu'on pourrait être d'accord, en tout cas sur le principe, c'est la difficulté, c'est d'éviter que ce rééquilibre se produise avec deux secteurs. Un secteur majoritairement négatif et puis un secteur de journalisme positif, de solutions, etc. Sans correspondance réelle entre eux. Or, bien sûr qu'il faut des initiatives de journalisme de solution, entre guillemets, pour bousculer le système médiatique.
Mais alors, au bout d'un moment, une rubrique plutôt que des journées spéciales.
Non, mais là, je n'ai pas de solution, si j'ose dire, sur les modalités. Mais je vois le problème.
Je pense que on peut effectivement, nous, on fait un Impact Journalism Day qui est un prétexte en fait, qui est un prétexte pour que la rédaction se dise mais en fait c'est formidable, on a des retours très positifs de nos lecteurs, c'est des sujets qu'on connaissait pas, etc. Et ça leur donne
envie
de faire
plus. Vous
ouvrez
les yeux aux journalistes, vous dessinez les yeux des rédacteurs en chef.
En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Et on les a fait venir là à Paris sur les 47, il y en a 30 qui sont venus, qui ont payé leur billet d'avion, qui sont venus pendant 3 jours. On a fait ça à l'AFP, au siège de l'AFP, pour réfléchir à tous ces sujets-là. Ils nous disent, en fait, on se rend compte que, ça remet en cause notre métier et on a envie d'aller plus loin, d'y réfléchir. Et je pense que la solution, alors ça peut passer par des chroniques ou des choses comme ça, mais moi, mon rêve, c'est qu'un jour, le journaliste dise, il y a un problème, je vais en parler, mais je vais regarder est-ce qu'il y a des solutions et s'il y en a, je vais en parler aussi. Et je vais traiter le problème sous les deux angles.
Question d'angle et question de point de vue.
Voilà, on prend le problème des réfugiés. On a beaucoup entendu parler des réfugiés et c'est essentiel. On a très peu entendu parler l'initiative, par exemple, de Nathanaël Moll, de Singa, qui accompagne les réfugiés pour monter leur boîte, ou qui a initié une initiative pour que les gens puissent les héberger. Ils ont eu plus de 7000 propositions. Je serais curieux de savoir combien de gens ont entendu parler à la radio.
Vous aurez réussi, Christian de Boisredon, quand vous aurez disparu.
Exactement, c'est ce que je dis en fait. Mon business model, c'est d'être voué à la destruction, l'autodestruction.
Oui, demain, c'est pas le cas, François Siegel. Vous continuerez.
J'espère qu'on a encore pas mal de solutions à proposer et puis qu'on sera de plus en plus écoutés, effectivement, dans les solutions. Non, c'est vrai, si on prend, l'histoire des réfugiés, par exemple, de l'émigration, de ce problème de société, je dirais, immense, etc. Je veux dire, il est traité en général par la peur.
globalement, qui fait qu'on déraisonne, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès, je dirais, aux informations qui sont les bonnes, c'est-à-dire qu'on ne sait pas que... J'entendais un chiffre absolument hallucinant, etc. Ces gens qui sortent, je dirais, c'est des gens formés, éduqués. Alors, d'un seul coup, tout de suite, dès qu'il y a un réfugié, derrière chaque réfugié, il y a forcément un islamiste qui se cache, etc. Donc, vous voyez, je dirais, les idées malignes se sont emparées de ça, et on cultive la peur. Je pense que si on revient à du journalisme un peu classique, c'est de faire là-dessus du fact-checking et de raconter qu'effectivement l'Europe a des problèmes effectivement de populations qui sont terribles, que des pays comme l'Espagne, ouais, comme le Portugal, comme l'Allemagne vont être dans des dénatalités absolument formidables et que globalement, au lieu d'être une menace absolue qui vont faire sombrer les États, quoi, je veux dire, ça peut être aussi une chance.
Là, c'est aussi une question de point de vue politique.
Mais je pense qu'il faut faire la part des choses. Voilà. Et on fait pas assez la part des choses.
Comme vous n'avez pas de solution, François Siegel, dans Oui Demain, vous ne couvrez pas le sujet en question?
Il y a des sujets qu'on adorerait traiter parce que globalement, tout est le monde, tout est demain. Ouais. Je veux dire, les États en destruction aujourd'hui, globalement, ça aura forcément des incidences sur demain. Par exemple, la Syrie peut être aussi traitée par le côté environnemental. Il y a une BD absolument superbe qui est en train de circuler en ce moment. Je veux dire, les migrations syriennes ont démarré par une immense sécheresse qui fait qu'il y a eu plus d'alimentation et des exodes massifs de population vers les villes. Donc je pense qu'on peut tout traiter à la mode demain et sans un mode tout à fait trop gentil sur l'information.
Le secret des sources. Benoît Bouscarel.
Alors vous venez de parler d'environnement, tiens, François Siegel. L'environnement, c'est un des domaines, peut-être même de prédilection pour le journalisme de solution, Isabelle Vérin-Masson.
Oui, alors moi j'ai fait partie l'année dernière du jury de Reporters d'Espoir, qui c'est un think tank qui veut promouvoir le journalisme de solution. Et donc j'ai été très frappée de voir qu'en fait, dans ceux qui avaient gagné dans les solutions, c'était des journalistes qui étaient dans le domaine de l'environnement. Et la question des solutions et de l'environnement est une vraie question qui pose des problèmes à la fois journalistiques, de déontologie journalistique, et aussi des problèmes un peu de l'ordre de ce dont parlait Éric Dupin, c'est des problèmes plus généraux. Pourquoi des problèmes journalistiques? Parce que on voit bien qu'un journaliste n'est pas censé prendre un engagement. Il a une éthique professionnelle qui conduit à la neutralité, et que souvent les journalistes qui travaillent sur les questions de l'environnement se sentent à un moment donné, ou bien antérieurement, c'est ça la question, porteurs d'un message de citoyen éthique, philosophique, parfois écologique, qui consiste à dire qu'ils doivent dénoncer, proposer, intervenir dans l'espace public autrement que par la neutralité journalistique. Et en cela, il est parfois en contradiction avec son propre journal et de toute façon avec la logique journalistique. Donc ça me paraissait quelque chose qui était intéressant de signaler aujourd'hui. Et puis l'autre chose, c'est qu'une des fonctions du journalisme, c'est pas simplement le cadrage, l'agenda, comme on dit dans mon métier, c'est-à-dire proposer des thèmes et des personnages, mais également la mobilisation. Les journaux peuvent mobiliser pour un certain nombre de sujets, ils le font traditionnellement, là ça fait partie de leur ADN, les journalistes se sentent souvent impliqués dans cette question, et là ils peuvent être. Et là du coup on peut se demander comment est-ce qu'on mobilise, alors pour la planète ou contre un problème de santé publique ou un danger, est-ce que c'est en proposant des solutions, et à ce moment-là on dit aux gens, agissons, vous pouvez agir, et les médias d'une certaine manière peuvent donner envie d'agir, ou alors ils risquent aussi de proposer des fausses solutions, c'est-à-dire qu'en disant vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Moi je pense toujours à cette histoire de se laver les dents, éteignez l'eau quand vous lavez les dents.
C'est
on voit
pas
bien
une bonne solution.
Voilà, c'est une solution un peu ridicule par rapport à l'ensemble des... Mais peut-être qu'il y a des gens qui disent, moi je suis écolo, la preuve c'est que j'éteins l'eau quand je me lave les dents. Donc ça c'est le premier risque. Mais annoncer des catastrophes, c'est grave aussi, c'est dangereux aussi, parce que les gens peuvent se sentir démunis face à la catastrophe, face au danger que les journalistes vont leur annoncer, et se dire de toute façon, il n'y a pas de solution, donc c'est pas la peine que je fasse quoi que ce soit, même pas d'éteindre l'eau quand je me lave les dents. Et au contraire, on peut imaginer qu'annoncer des catastrophes, comme vous l'avez fait dans ce reportage, évidemment, peuvent au contraire créer un sentiment d'urgence. C'est-à-dire que face à la catastrophe, ou je me retourne, je reste chez moi et je cultive mon jardin, ou bien au contraire, je vais quelque part, je sors dans la rue. Et là, les journalistes ont solution ou pas, une véritable, à mon avis, responsabilité. Ils se sentent d'ailleurs impliqués dans cette responsabilité, et certains, on le sait, quittent d'ailleurs leur journal d'origine pour créer leur je pense évidemment à Hervé Kempf, qui a préféré retourner dans
enfin, pardon,
qui a en tous les cas dû retourner sur Reporter.
Et qui en a profité pour faire des...
Voilà. En tous les cas, il a été, et il n'est pas le seul, je sais que Sylvestre Huet est dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il y a constamment cette double affiliation, d'une certaine manière, à son corps de métier ou à son choix citoyen.
Merci Isabelle Verramasson. Qui veut réagir là-dessus sur le pouvoir du journaliste et sur le journaliste qui sort de son rôle, Éric Dupin?
Oui, c'est une question très intéressante, et celle de l'utilité sociale des médias et des journalistes. Parce qu'évidemment, il y a une réponse un peu naïve qui n'est pas satisfaisante, c'est « moi je suis journaliste, je regarde le monde, j'en rends compte ». Sans le moindre préjugé et sans la moindre idée préconçue.
La fameuse objectivité.
Objectivité. En réalité, quand on connaît les journalistes, et je suis bien placé pour les connaître, ce sont des idéalistes plus ou moins bien soignés d'ailleurs, ou en tout cas des gens qui sont entrés dans la profession avec une idée que, en parlant du monde, on allait l'améliorer. Donc c'est une idée sous-jacente qui est forcément présente. La question est de savoir comment elle est vécue. Et là, évidemment, il y a toute une palette d'attitudes. Il y a le journaliste militant qui s'est donné une ou plusieurs causes. Je ne citerai pas de nom pour me fâcher avec personne. Mais on voit bien de qui il peut s'agir, au pluriel. Donc il y a des journalistes militants. Et puis il y a des journalistes qui sont pas moins militants, mais simplement ils sont dans l'air du temps. Donc ce sont des perroquets qui répètent ce que l'idéologie dominante, un gros mot mais qui recouvre hélas une réalité, dit. Et entre les deux, c'est vrai que c'est pas facile de se dire « j'ai un rôle, et si je rencontre du réel, c'est pour bousculer une réalité qui ne me satisfait pas et qui pose problème. » Et ce qui fait que, en posant véritablement les problèmes, en les posant bien, en allant voir les gens qui souffrent de ces problèmes et qui ont réfléchi, eh bien, je pense que relativement naturellement
la solution
arrive à, pas forcément des solutions, mais des pistes.
François Siegel, sur ce problème entre le journaliste et le militant dans les thématiques environnementales dont parlait tout à l'heure Isabelle Verramasson, c'est un vrai problème. Est-ce que vos journalistes sont quelque part des militants? Et s'ils le sont, est-ce qu'ils arrivent à faire leur métier de journaliste correctement?
C'est tout à fait une question précise et effectivement excellente, et c'est un problème auquel on est confronté. C'est-à-dire quand on est convaincu qu'effectivement il faut changer complètement de paradigme, il faut changer de façon d'être, on est forcément militant. Voilà. Et un tout petit peu moins journaliste parce qu'on pense que c'est la solution.
Et alors, est-ce qu'on se pose les questions du journaliste quand il est devant un sujet?
Et en gros, est-ce qu'on peut être journaliste militant de l'environnement sans être totalement décroissant? C'est-à-dire, en fait, on oublie tout ce qui est notre modèle de vie, tout ce sur quoi s'est construit, encore une fois, le XXe siècle. C'est très compliqué, mais globalement, nous, on essaye quand même globalement de faire la part des choses et de leur dire quand même, les gars, ouvrez un tout petit peu les yeux. C'est-à-dire que demain matin, ok, est-ce qu'on va vivre dans un monde où il n'y aura plus une centrale nucléaire, effectivement, où il n'y aura plus une goutte de carbone? Oui, sur le fond, vous avez raison. Mais voilà, on est quand même peut-être dans une période de transition. C'est-à-dire que le monde rêvé, je dirais, des écolos, des écolos purs et durs, ce monde de la décroissance où la production est l'ennemi, c'est sûr qu'on va pas y arriver tout de suite du jour au lendemain. Même sur le fond, ils ont raison, parce que globalement les nuages noirs là qui viennent du climat sont de plus en plus noirs, de plus en plus forts et de plus en plus fréquents. Mais voilà, donc il y a un moment, il faut faire la part des choses. On l'a vu effectivement sur plein de phénomènes, je dirais, d'actualité sur lesquels il faut tout arrêter tout de suite. On le voit sur le diesel en ce moment. Je veux dire, c'est passionnant le diesel. C'est tellement passionnant qu'on est complètement paumé, on sait plus rien, entre les tricheurs là de chez Volkswagen, cette espèce de c'est quand même formidable ce qui vient de se passer. Je trouve que c'est un cas d'école pour terminer un siècle et en commencer un autre, Il y a le plus grand constructeur du monde, la Dassault Auto, le plus prestigieux, le capitalisme rénant, l'Allemagne, etc., d'un seul coup, qui est pris la main dans la confiture avec des tricheries absolument monstrueuses, etc. Et tout de suite, on dit c'est le diesel. Peut-être que c'est un peu le diesel, c'est un peu les tricheurs.
Vous êtes un militant, François Siegel?
Mais on essaye de pas l'être.
C'est-à-dire que le problème des solutions, c'est qu'on dit il y a un journalisme de solutions comme s'il n'y avait qu'une seule solution. Alors qu'évidemment, il y a plusieurs solutions et que le choix de telle ou telle solution risque d'être un choix politique. Ouais. Et que le journalisme de solution qui paraît comme finalement une belle idée, votre livre Les Défricheurs est formidable, il rend heureux. Mais en réalité, quand il faut faire un choix éditorial, c'est-à-dire le choix des journalistes, c'est-à-dire choisir un thème, choisir un sujet, choisir une solution, de nouveau, on est confronté avec quelle solution? Et les solutions sont politiques, elles demandent de faire des choix, et ces choix, normalement, les journalistes ne sont pas là pour les faire. C'est pas tout à fait... Il y a les hommes politiques. Et d'ailleurs, c'est intéressant, j'allais le dire dans ma chronique, c'est que les journalistes sont confrontés à ça au point que parfois, ils deviennent des hommes politiques. Noël Mamère, pour cela, est évident. C'est-à-dire que on voit bien qu'à force d'avoir envie de proposer ses solutions, il a intégré un parti politique dont le métier, alors pour le coup, c'est de proposer des solutions.
Et il l'a quitté aussi.
Éric Dupin.
Parce qu'il n'y avait vraiment pas de solution.
François Siegel.
Non mais tous ces gens-là, ils sont pas idiots. Ils voient bien que ça marche plus le système et que ça fait un petit bout de temps que ça marche plus avec les potions, les emplois aidés, les relances à la croissance, etc. Ça fait un bout de temps que la machine, elle se casse la figure. Mais vous voyez, les solutions, elles sont impossibles à dire. Vous voyez pas Hollande se pointer à 20h en disant « Mes chers compatriotes » ou « Chers Français, chères Françaises, la croissance, c'est fini. Regardez la courbe en France depuis 50 ans, vous verrez qu'elle arrête pas de se casser la gueule. Donc il faut passer effectivement à la croissance zéro. On va trouver des solutions. » L'emploi, ça reviendra pas, c'est-à-dire que les années de croissance, on les retrouvera pas, etc. Mais vous voyez, ensemble, on va imaginer, on va s'entraider. C'est impossible. Le système ne peut pas accepter ça. C'est pour ça que les propagateurs de solutions ne sont pas très entendus. Parce que, évidemment, on n'est pas mainstream dans le concert des informations.
Ça dépend de la solution.
Voilà.
Éric Dupin.
Il y a un autre problème sur le journaliste de solutions, c'est que, par définition, souvent, ce sont des solutions qui sont palpables, localement, individuelle ou collective, hein, ça peut être des villages, ça peut être des collectifs, des entreprises autogérées, il y a des choses comme ça. Mais par définition, c'est ce qui existe et c'est pas global. Or, mon analyse, alors là pour le coup, point de vue un peu politique, c'est que nous sommes dans un système du capitalisme financier mondialisé, etc., qui a une force qui ne peut pas être sous-estimée. Et que ces initiatives, même si elles se multiplient, à mon avis, ont peu de chances de bousculer complètement le système. Donc, le journalisme de solution risque de donner, de nourrir l'illusion que c'est uniquement en essaimant, hein, c'est la thèse des colibris, les amis de Pierre Rabhi, que je me permets de critiquer dans mon livre, que ces initiatives, à elles seules, vont changer le système.
C'est le robinet d'eau dont parlait Isabelle Vermasson tout à l'heure.
Christian de Bordeaux. Aujourd'hui, par exemple, avec ce qu'on appelle le crowdfunding, le financement participatif, rien qu'aux États-Unis, Kickstarter, qui est le leader, les gens ont financé des projets, des petits projets, pour 1,9 milliard de dollars. Donc aujourd'hui, avec les moyens techniques, on peut créer des révolutions et remettre en cause les dérives de certains géants, même si tout n'est pas acheté avec l'eau du bain. Et eux-mêmes, en fait, commencent aussi à se poser des questions et à rentrer là-dedans. Donc oui, c'est vrai qu'il y a des grands géants qui font peur et qui peuvent bloquer le système, mais il y a aussi toute une force vive, si on s'y met tous, on peut changer les choses. Et pour revenir sur la question d'avant, effectivement, le journaliste n'a pas pour vocation d'être militant. Mais par contre, il peut se dire, bon, je vais parler des problèmes et des solutions de façon plus équilibrée. Et ce qui est très important, c'est qu'il mette la même exigence dans sa recherche sur les solutions pour ne pas médiatiser des fausses bonnes idées que quand il va investiguer sur les problèmes. Même si, ça c'est un autre débat, aujourd'hui on a perdu le journalisme d'investigation dont on a urgemment besoin, parce que effectivement...
On l'a pas tout à fait perdu non plus.
On l'a pas perdu, mais c'est vrai que les médias... Non, mais les médias ont de moins en moins de moyens. Et c'est vrai qu'il y en a peu qui ont les moyens d'aller creuser les vrais sujets. Il y a Mediapart qui le fait très très bien, mais il y en a peu. Mais tout ça, c'est une question de moyens.
Merci à tous les quatre, à notre intervenante régulière. Oui, déjà. Mais la discussion continue sur Internet, sur franceculture.fr notamment. Merci à Isabelle Vermasson, directrice de recherche au CNRS, directrice du laboratoire communication et politique. Merci à Éric Dupin, journaliste, essayiste, auteur du livre Les Défricheurs, dont on a beaucoup parlé pendant cette émission, aux éditions La Découverte, un voyage dans la France de ceux qui innovent vraiment. François Siegel, directeur de la publication de Oui Demain, la revue pour changer d'époque, dont le numéro 11 est en kiosque avec en couverture cette question sur la fin du travail. La fin du travail et et après. Et puis merci également à Christian de Boisredon, créateur de Spark News, prochain Impact Journalism Day en 2016. Et puis, plus proche de nous, le 18 novembre, Solutions & Co.
Voilà, Solutions & Co, c'est avec les journaux économiques, donc les Échos, Wall Street Journal et les grands journaux économiques, sur les solutions pour le climat.
Merci encore à tous les quatre. On referme ce chapitre sur le journalisme de solution avec le clin d'œil de Yacine Bouzard.
À l'ouest de l'ouest vivait un type dont je vais vous conter l'histoire, le duc.
Vous savez, c'est curieux. On dit souvent, je le sais, hein, quand même, il donne des leçons, Savonarole, imprécateur, etc. C'est très curieux parce que ce reproche vient de journalistes. Je suis plutôt un donneur d'enthousiasme.
Duc, jamais personne de par chez nous se ferait appeler comme ça. Mais de temps en temps, il y a un homme qui... Et c'est du duc que je parle là. Un homme qui est exactement à sa place, qui colle parfaitement dans le tableau. Comme le duc.
Voyez bien comment aujourd'hui, le journalisme donne une image qui est désastreuse, de commentaires, ouais. De gloses, ouais. De petites phrases, de complicité avec les grands de ce monde.
Change rien, Duc.
Ah, ça.
Continue de te la couler douce.
T'inquiète, le Duc tient bon.
Mediapart n'est pas poursuivi par personne dans l'affaire Cahuzac. Curieux, non? Après tous ces démentis, quand même.
Vous, je sais pas, mais moi, ça me réconforte. C'est bon de savoir qu'il est là. Le Duc.
Je suis plutôt un donneur d'enthousiasme.
I woke up this morning with the sun down, shining in.
Le clin d'œil du secret des sources, signé chaque semaine Yacine Bouzard. Notre regard sur la presse étrangère avec Cyril Sauvageau, correspondant permanent de France Culture à Berlin. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Cette semaine aura été marquée par les chaos de l'industrie automobile allemande, une actualité qui a beaucoup intéressé la presse.
Oui, c'est la semaine où Das Auto est devenu Der Skandal ou encore Der Betrug, l'imposture, pour reprendre un titre du Spiegel. Un choc, un désastre, une débâcle. La presse allemande n'a pas de mots assez durs pour qualifier cette tragédie nationale dans un pays où la voiture est une religion et où surtout le succès de l'industrie automobile est un motif de fierté. Alors depuis lundi, l'Allemagne vit au rythme des rebondissements de l'affaire depuis les premières révélations aux États-Unis jusqu'au départ du PDG Martin Winterkorn, avec partout à la une des journaux cette même image. L'emblème brisé de Volkswagen. Il y a eu d'abord la stupeur. Comment un tel culot est-il possible? Ce n'est pas seulement criminel, c'est incroyablement bête, écrivait mardi la Taz, le quotidien de gauche. Puis les questions, deux possibilités pour le Spiegel. Soit la direction savait tout, soit quelques ingénieurs en interne ont pris la liberté de faire ces manipulations. Deux scénarios aussi graves l'un que l'autre. Enfin, l'inquiétude pour l'avenir, inquiétude sur les conséquences de ce séisme. Pour le quotidien conservateur Die Welt, Volkswagen a tout simplement ruiné la marque Made in Germany et mise en danger l'ensemble des exportations allemandes.
Et au-delà du cas de Volkswagen, c'est toute la filière automobile qui est touchée par ces révélations en cascade.
Oui, la meilleure illustration, c'est ce qu'a vécu en fin de semaine BMW avec les soi-disant révélations du journal Auto Bild. Rien de bien lourd, hein. Le supplément voiture de la Bild Zeitung affirme qu'un modèle de BM, la X6, dépasse les taux de pollution autorisés par les normes européennes. Le journal n'évoque aucune tricherie, aucune falsification, mais l'info suffit à semer la panique à la bourse de Francfort où l'action BMW a perdu jusqu'à 8% jeudi. La preuve qu'une crise de confiance se profile pour les constructeurs allemands. Le scandale pourrait bien faire tache d'huile. Ça pue, ça pue, ça pue, résume joliment l'hebdomadaire Die Zeit, avec en une de la fumée noire sortant d'un moteur Volkswagen. Ça sent mauvais, effectivement, et pas seulement pour l'industrie. Les pouvoirs publics, savaient-ils, sont-ils complices du trucage? C'est ce qu'affirment plusieurs médias allemands, qui mettent notamment en cause le ministre des Transports, Alexander Dobrindt.
Cyril, un autre visage est en photo dans toute la presse outre-Rhin. Ce visage, c'est celui de Martin Winterkorn.
Oui, le PDG démissionnaire, son départ était devenu inévitable, mais certains journaux allemands lui rendent malgré tout hommage et ça mérite d'être signalé. Martin Winterkorn a beau porter le fardeau de ce scandale, il reste dans l'esprit de beaucoup d'Allemands un capitaine d'industrie adulé et respecté. Pour la Bild Zeitung, il faut se souvenir que c'est lui qui a hissé Volkswagen au sommet en faisant de l'entreprise le numéro un mondial du secteur devant Toyota. Et maintenant, eh bien Volkswagen doit faire table rase du passé et poursuivre tous les responsables, estime le Frankfurter Allgemeine Allgemeine pour la Süddeutsche Zeitung, cette démission ne règle rien. La descente aux enfers ne fait que commencer. Conséquences économiques et pénales, des conséquences qui pourraient être dérisoires comparées à la perte de notoriété et de réputation pour Volkswagen. Pour le journal Die Welt, bâtir la confiance demande du temps, la perdre va beaucoup plus vite.
Merci Cyril Sauvageau, notre correspondant à Berlin. Ainsi se termine le secret des sources. Un grand merci à toute l'équipe. Mathias Mégy à la préparation, Vincent Abouchard à la réalisation et Ariane Herbé était à la technique aujourd'hui. Dans un instant sur France Culture, réplique d'Alain Finkielkraut avec cette question aujourd'hui. Y a-t-il une religion de la Shoah? Ce sera juste après le journal de Sophie Delpont. Très bonne journée.
Je préférerais que on commence par essayer de faire un journalisme de problèmes sérieux, d'aller à la rencontre du réel.
C'est vrai qu'il y a des grands géants qui font peur et qui peuvent bloquer le système, mais il y a aussi toute une force vive, si on s'y met tous, on peut changer les choses.
Quand on est convaincu qu'effectivement il faut changer complètement de paradigme, il faut changer de façon d'être, on est forcément militant et un tout petit peu moins journaliste parce qu'on pense que c'est la solution.